là.
L'audience est ouverte.
L'audience est ouverte, bonjour à toutes et à tous. L'audience est ouverte, émission de Radio Rentiel qui vous permet de vous familiariser avec les arcanes de la justice en France. Et nous bénéficions grandement des lumières de Philippe Arbouche, alias Maître Arbouche, qui a été avocat pénaliste pendant de très longues années. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le droit de la famille. Qu'est-ce au juste que le droit de la famille ? Alors, moi, bêtement, je suis allé sur Wikipédia. Le droit de la famille est du droit privé régissant les relations d'un ensemble d'individus unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption. Jusque-là, ça va ?
Oui, ça va. Ça va.
Ça va.
Oui, je suis d'accord.
Bah, pourquoi la justice se mêle des affaires de la famille ?
C'est vrai, dans le fond. Parce que la justice a pour fonction de régler les rapports de vie en société et que depuis longtemps maintenant, la justice s'est intéressée à l'individu, donc à la famille. Nous parlions dans une émission précédente de l'individualisation au début du système judiciaire, d'une ébauche d'organisation de système judiciaire, effectivement. Il n'y avait pas de juge aux affaires familiales. On vivait, point. Et au fur et à mesure de l'évolution, le droit s'est emparé des rapports familiaux, essentiellement pour protéger les individus. Protéger les individus entre eux, dans un cadre familial, protéger des violences, par exemple, les violences conjugales, mais protéger aussi du corps social, c'est-à-dire donner un statut. Alors, plus concrètement, le droit s'est intéressé à la naissance, à la mort, et au petit épisode entre les deux qui s'appelle la vie.
La naissance, alors, c'est-à-dire ?
La naissance. À partir de quand a-t-on une personnalité juridique ? Il nous faut introduire maintenant dans notre discussion cette notion de personnalité juridique. Avoir une personnalité juridique, c'est avoir des droits et des devoirs, bien sûr. Un caillou n'a pas de personnalité juridique. Un animal a-t-il une personnalité juridique ? Réponse, non.
Et pourtant, on a parlé de procès d'animaux dans la première émission.
Et pourtant, on a parlé de procès d'animaux. Et pourtant, c'est un être sensible. Oui. Et pourtant, on n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Et pourtant, etc. Mais il n'a pas la personnalité juridique. On commence à donner la personnalité juridique à une montagne, à un fleuve, ce qui va obliger les juristes à réfléchir. C'est-à-dire, ce fleuve aura le droit d'être protégé contre la pollution, contre... La personnalité juridique de l'être humain s'est imposée très rapidement et on l'a donc doté cet être humain de droits et devoirs. Vous me parliez de la naissance. À partir de quand est-ce qu'on a la personnalité juridique ? Est-ce que c'est à partir du moment où on est conçu ou est-ce que c'est à partir du moment où on naît au monde, où on sort du ventre de la mère ? Le droit nous dit « infans conceptus », c'est-à-dire c'est à partir du moment où l'enfant est conçu qu'il acquiert une personnalité juridique qu'il ne peut pas utiliser puisqu'il n'a pas encore la capacité, mais il faut distinguer la personnalité de la capacité.
Donc soyons clairs, un embryon a une personnalité juridique.
À partir d'un certain moment, il a une personnalité juridique.
Et quel moment ? C'est difficile à fixer.
Ce sont des propos, ça n'intéresse pas trop le droit, ça intéresse plutôt la sociologie. Le droit va suivre la sociologie. Certains vont dire c'est à partir du moment où l'enfant a été vraiment conçu, du jour de sa conception. D'autres, c'est à partir du moment où il est viable. D'autres, à partir du moment où il est. Là, nous rejoignons des problèmes éthiques, des problèmes philosophiques, des problèmes religieux, bioéthiques, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le droit appréhende infans conceptus. Avant même que l'enfant ne soit sorti du ventre de sa mère, il a une personnalité juridique. Idem, ça ce sont des moments toujours un peu compliqués, mais prenons l'enfant qui est né. Cet enfant, il a 1 an, 2 ans, 5 ans, jusqu'à 18 ans, il a la personnalité juridique, mais il n'a pas la capacité. La capacité, c'est à partir du moment où on lui reconnaît le droit d'aller lui-même en justice, d'ester, dit-on, en justice. Et si on en revient au droit de la famille, si vous voulez, la progression est la suivante. On est d'abord pas sorti du ventre, infans conceptus, puis on est né, personnalité juridique, mais pas de capacité jusque 18 ans, à 18 ans, au jour d'aujourd'hui, hein, à 18 ans, pleine capacité juridique. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là, on vit. Donc, on acquiert des droits, on peut créer une société, mais si on revient au droit de la famille, on peut vivre avec quelqu'un, concubinage, est-ce que c'est une situation juridiquement appréhendée ?
C'est le cas. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut se marier ? Oui. Est-ce qu'on peut adopter ? Oui. Est-ce qu'on est fils ou fille d'eux ? Oui. Donc ça donne des droits. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment où peut-être on va redevenir incapable, parce que nos capacités intellectuelles ne vont plus suivre, ou physiques, mais plutôt intellectuelles, et ça va être la tutelle, la curatelle, qui peut se dérouler d'ailleurs à n'importe quel moment de la vie d'une personne. Mais prenons par exemple une personne âgée, on va agir en ses lieux et places parce qu'elle n'aura plus la capacité à le faire, conservera une partie de sa capacité, mais pas la totalité, et même après la mort, on gardera la personnalité juridique, puisqu'on n'a pas le droit d'insulter la mémoire d'un défunt. De saccager une sépulture, alors que, très honnêtement, le défunt, bon, il n'est pas là. D'abord, il n'est pas là pour agir, et puis, voilà, il n'est plus là, quoi.
J'en reviens quand même à l'enfant, parce qu'effectivement, la personnalité juridique n'intervient qu'à la majorité, cependant...
Non, la capacité juridique.
La capacité. Cependant, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, un enfant est justiciable, il y a un juge des enfants, je
veux dire. Bien sûr. Hein. Alors, il est justiciable à partir d'un certain âge. Avant, on estime qu'il y a une totale excuse de minorité. C'est-à-dire qu'il est arrivé malheureusement dans une cour d'école que un des gamins ou une des gamines récupère un couteau et met un coup de couteau à son copain ou sa copine et le tue. C'est arrivé les gamins à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce que vous voulez ? Les bêtises, ça arrive à tout âge. Bon, en dessous d'un certain âge, on estime qu'il y a une totale irresponsabilité pénale. D'accord. En gros, il y a 10 ans, 13 ans, 13 ans, 16 ans, 16 ans, 18 ans. Voilà. Mais à partir de 10 ans, il peut y avoir une forme de responsabilité. Donc vous voyez, on progresse dans la capacité juridique. Mais la pleine capacité n'est qu'à partir de 18 ans.
Ouais. Et donc c'est le juge des enfants, jusqu'à 18 ans, c'est le juge des enfants qui s'occupe de...
Oui, tout à fait. Ouais. Alors si on revient à la famille, ce qui est intéressant, si vous voulez, bon, ce qu'on connaît surtout dans le système judiciaire, c'est l'existence du juge aux affaires familiales, qui est souvent connu pour trancher les litiges relatifs au divorce, enfin, litiges ou en tout cas prononcer les divorces. Mais il y a tout un tas d'autres missions qui sont dévolues, soit à ce juge, soit à d'autres structures. Je pense par exemple les PACS, le pacte civil de solidarité.
Alors, c'est quoi la différence finalement entre le concubinage, d'un point de vue juridique, et le PACS ? Qu'est-ce que ça apportait de plus finalement ?
Alors, le PACS, c'est une. Officialisation d'une situation. Cela dit, on n'est pas forcément en concubinage quand on n'est paxé. Voilà, on peut se paxer avec quelqu'un avec qui on n'est pas en concubinage. Bon, concubinage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cum cubare, ça veut dire coucher avec. Bon, donc, voilà, c'est pas compliqué.
C'est simple.
C'est pas compliqué à tenir. Voilà. C'est pour ça que quand on parle d'officialiser le... Moi, j'ai toujours... Bon, on pourra en discuter, hein, mais j'ai toujours beaucoup souri quand il y avait des certificats de concubinage qui étaient donnés. Si vous voulez, c'est pas vous qui tenez la chandelle, quoi. Donc vous pouvez pas savoir si les gens... On peut très bien vivre prenons l'exemple des colocataires aujourd'hui, des jeunes colocataires, on pourrait dire, vu de l'extérieur, « Ah bah dis donc, ils sont ensemble, ceux-là. » Bah non.
C'est des colocs.
Voilà, c'est des colocs. Hein. Donc le concubinage... Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la mesure où un certain nombre de personnes ne souhaitaient pas se marier, le droit, si vous voulez, s'est aligné, la jurisprudence s'est alignée de plus en plus sur la réalité sociale. On a dit, bah oui, c'est pas parce qu'on est concubin, donc pas marié, Je vous rappelle, Napoléon disait les concubins ne veulent pas la loi ne veut pas des concubins, hein, quand même. C'était d'époque assez dure. Aujourd'hui, on a dit, ben non, quand on a vécu 20 ans ou 30 ans avec une personne, avec la même personne, qu'on a eu des enfants ensemble, etc., qu'on soit marié ou pas, il faut quand même à un moment donné que les droits soient reconnus.
Donc ça ouvre des droits, ça.
Absolument, hein. La retraite, les protections sociales, etc. Ça n'a pas été sans résistance, hein, parce que le mariage était considéré comme l'institution
sacrée,
de droit.
Même le mariage républicain. Ah,
nous parlons du mariage civil. Hein, ouais. Nous ne parlons pas du tout du mariage religieux. Hein, nous parlons là, nous sommes sur une justice civile. Donc le concubinage a été reconnu, le pax, et puis le mariage, toujours dans une justice civile. Est réglé par le droit. Hein. Lorsqu'on se marie, on se souvient pour un certain nombre d'entre nous, le maire ou son délégué nous lit les articles du Code civil.
Oui,
alors évidemment, ce jour-là, on n'a pas l'oreille à ça, mais ces articles-là ressortent, sont très utiles quand on commence à parler du divorce. C'est-à-dire, les époux se doivent mutuellement assistance, secours, fidélité, etc. Ah, c'est là où on se dit, tiens, il y a peut-être un truc qui n'a pas été. Et c'est bien des articles du Code civil qui sont lus. La direction de la famille, jusqu'à peu encore, appartenait au père. Aujourd'hui, c'est les époux mènent conjointement l'éducation des enfants, etc. Donc le droit a évolué et la justice, quant à elle, est chargée de voir que les choses sont bien appliquées.
Ouais.
C'est-à-dire, si l'un des deux ne respecte pas les termes du Code civil du mariage, eh bien, il y a matière à divorce.
Ouais.
Voilà.
Ça a quand même beaucoup changé, là, puisqu'on parle du divorce.
Beaucoup.
Dernièrement, d'ailleurs, on peut divorcer sans qu'il y ait vraiment de motif.
Oui. On est allé vers un divorce apaisé, assez rapidement, d'ailleurs. Disons que depuis l'après-guerre, le but du législateur a été d'apaiser le divorce, tout simplement parce que ça correspond aussi à une montée sociale, enfin, une montée quantitative des divorces. Donc. 1 sur 2 en zone urbaine et 1 sur 3 en zone rurale.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est fréquent et on a voulu pacifier. Et c'est vraiment une bonne chose, quoi. Parce que quand on se souvient de l'époque où il fallait forcément reprocher une faute à son conjoint, lequel vous reprochez une faute...
On engageait des détectives privés pour prendre des photos, prouver l'infidélité.
Oui,
c'était vrai, ça. C'est pas que dans les films.
Non. Alors, les détectives privés, ça servait à rien. Mais bon, on le faisait quand même. mais pour parler un peu grossièrement, ça volait pas haut, parfois. Quoi.
Oui.
Ça volait pas haut. D'où, progressivement, on a dit, on va gommer cette histoire. On est passé par les torts réciproques sans énonciation des griefs. Donc ça veut dire, je te reproche quelque chose, mais je dis pas quoi. Tu me reproches quelque chose, mais je dis pas quoi. Et aujourd'hui, c'est même presque une formalité, puisque le juge ne passe plus par là, hein, pour le divorce aujourd'hui.
Hein.
C'est simplement, on en prend acte. Les avocats font les divorces, les notaires les officialisent. Voilà. Mais la famille, c'est aussi la filiation. Par exemple, c'est toute la... qui dit filiation dit les successions. Suis-je bien le fils ou la fille d'eux ? Comment je peux prouver mon lien biologique ?
On en parle beaucoup aujourd'hui.
Les tests ADN, moi je suis le fils naturel de Johnny Hallyday. Bah, c'est quand même intéressant économiquement, quoi. Donc il faut le prouver. C'est pas des histoires en l'air. Hein. C'est,
On se rappellera la fête de la fille, enfin, soi-disant fille d'Yves Montand.
C'est ça, c'est cette référence à ça, oui. Et puis ça existe. Enfin, voilà, les sans sous X qui cherchent aujourd'hui leur filiation. Et bien sûr, toute l'assistance médicale à la procréation.
Oui. Alors là, ça, c'est vraiment...
Qui crée d'autres débats éthiques et du coup, des conséquences juridiques.
Mais est-ce qu'on peut justement rappeler en quelques mots, par exemple, sur le plan juridique, qu'en est-il de la PMA ou de la GPA aujourd'hui en France, par exemple ?
Le sujet est sensible... On peut pas, on n'est pas autorisé à porter pour autrui dès lors qu'on n'est pas un couple hétérosexuel.
Hétérosexuel,
voilà.
D'accord.
Voilà. Je ne veux pas rentrer, je méconnais un peu, je ne connais pas assez bien les derniers rebondissements. Nous parlerons d'une affaire plus ancienne, si vous voulez, tout à l'heure.
Ouais.
Ce que je sais simplement, c'est qu'on est aux confins du juridique, de l'éthique et du philosophique. Et les débats prennent tout de suite une teneur passionnée. C'est qu'est-ce qu'une famille, hein, ouais. On parlait de la famille. Qu'est-ce qu'une famille? Les tenants de un papa, une maman existent. Les tenants de bah non, c'est pas nécessaire existent. Les paroles sont audibles. C'est comme on dit l'évolution de la société. Ouais. Le droit suivra.
Ouais.
Les juges suivront. Le droit, les juges n'ont pas pour mission de faire la loi. Ne l'oublions pas. Ce sont les parlementaires.
Oui.
Ce sont les parlementaires. Donc j'ai besoin d'attendre, pour avoir une réponse un peu moins évasive que celle-là, j'ai besoin d'attendre d'avoir les jurisprudences,
oui.
C'est-à-dire les décisions de justice. Je ne peux pas m'engager sur quelque chose qui n'est pas fixé encore par la justice. Ça évolue.
Ça évolue, oui. Bon. On n'est jamais loin de la philosophie hein, et de la sociologie.
Ah, jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, c'est une nécessité de réfléchir en amont, et c'est ce que font les parlementaires, du moins on l'espère et on le souhaite, avant de prendre une décision, avant de dire... on peut adopter, bien que n'étant pas marié ou que sais-je, le débat doit avoir lieu bien en amont. Et il a lieu. En France, il a lieu. Et puis il y a quand même des législations aussi concernant la famille. Je pense à l'adoption, par exemple, qui sont des domaines, là encore, très sensibles et qui se sont multipliés avec le concubinage, justement, ou avec les remariages. C'est-à-dire que le nouveau conjoint... Peut-il adopter les enfants de son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne? À quel titre? On distingue l'adoption plénière de l'adoption simple. Hein.
Est-ce que les conditions pour adopter se sont assouplies quand même ces dernières années ou c'est toujours aussi difficile? On dit souvent c'est le parcours du combattant.
Oui, un peu quand même, ouais. Ouais. Ouais, quand même, ouais. Parce que les pupilles de l'État ne sont pas légion et les gens qui veulent adopter un enfant en adoption plénière passent aujourd'hui par des filières. Alors le mot n'est pas, pas désastreux, hein, mais par des structures. Essentiellement pour adopter des enfants à l'étranger. Et parfois, certaines de ces structures sont un peu opaques, voire même, malheureusement, des trafics d'enfants, des choses de ce genre. Bon, toutefois, la législation française est très rigoureuse sur ce point. Et quand on met le pied en France, je dirais, quand ça devient officiel, les choses prennent une tournure très officielle. Mais il y a des pays encore où on paye le juge, on paye l'avocat pour commencer, qui lui-même paye le juge pour que l'enfant soit adoptable, par exemple. Bien sûr. Ne parlons pas du commerce. On en parlera peut-être dans la partie historique. Mais ne parlons pas du commerce du corps.
Ouais. Ça, c'est strictement interdit. Hein.
Ça, c'est strictement interdit. Ouais. Et pourtant, ça existe.
Ouais.
Et pourtant, ça existe. On vend son rein. On vend ce qu'on peut. Et parfois même, on vend ses enfants. Bon, pas chez nous, hein, quand même. Pas chez nous. Là, pour le coup, ce serait très réprimé. Et...
Ouais.
Fort heureusement, touchons du bois, c'est quand même pas des affaires qui sont légion. Mais ce droit de la famille est au centre véritablement d'une justice civile parce qu'il organise les rapports en société au plus près de l'humain. Nous parlerons de la responsabilité civile dans une autre émission. La responsabilité, c'est fondamental dans la vie en société, mais le noyau familial... C'est tout par-delà.
Est-ce qu'on peut dire deux mots des tutelles et curatelles? Parce qu'il y a parfois des situations très délicates, des abus, etc.
Oui,
là, la justice doit veiller, j'imagine.
Oui, la justice veille. Oui. Le juge des tutelles était avant au tribunal d'instance. Il est maintenant au tribunal judiciaire, mais ça revient au même. Et c'est sous contrôle d'un juge. Être sous tutelle ou sous curatelle, c'est forcément être sous le contrôle d'un juge qui va vérifier... la réalité de cette tutelle, curatelle. Autrefois, il y a eu des abus. Hein. On mettait sous tutelle celui dont on voulait hériter pour éviter qu'il aille dépenser tout son argent. C'est quand même de moins en moins vrai, si ce n'est rarissime, même si ça peut encore exister. Il y avait une tutelle, par exemple, qui existait, qui était pour prodigalité. Quand on avait quelqu'un qui dépensait trop de sous...
Qui dilapidait l'héritage.
Qui dilapidait l'héritage. J'en ai connu. Aujourd'hui, tutelle et curatelle...
La curatelle, la différence entre la tutelle et la curatelle.
La curatelle est une protection, donc, beaucoup plus allégée. La personne sous curatelle peut accomplir un certain nombre d'actes elle-même.
Sous surveillance, quoi, c'est ça?
Oui, sans surveillance, si ce sont des actes qui ne mettent pas en péril son patrimoine.
Hein, et qui surveille, du coup?
Le juge des tutelles, et bien sûr, alors pardon, sous le contrôle du juge des tutelles, c'est le curateur qui est désigné par un juge des tutelles. Souvent, c'est une association, l'UDAF ou autre, bien sûr, ou des curateurs privés. Et la tutelle, c'est la même chose, mais pour des personnes dont les capacités sont plus atteinte ou qu'il faut davantage protéger.
On va écouter la musique que vous avez choisie.
Ah, j'ai choisi l'air du catalogue de Don Juan, de Mozart, parce que eh bien, le valet de Don Juan énumère le nombre de conquêtes que Don Juan a pu avoir. On est en plein droit de la famille, vous voyez.
Ça dure longtemps, non?
Oui.
On écoute.
Madamino, il catalogue è questo, delle belle chiamo il padre mio, col catalogo è vecchio statino, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, oh, in Spagna. Ma in Spagna son già 1003. Andrò in queste contadine, cameriere cittadine, contesse, baronesse, marchesine, principesse, e d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Parentesse, contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesine, principesse, e mandoni d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma.
Doit-on le plaindre ? C'était Don Juan et toutes ses conquêtes. C'était Mozart, bien évidemment. Il nous reste quelques petites minutes. Nous évoquons aujourd'hui, dans notre émission, le droit de la famille. Et, comme d'habitude, nous allons terminer l'émission en évoquant un procès célèbre, retentissant. Rappelez-vous, on est entre 85 et 86, et c'est le procès des mères porteuses. Philippe, dites-nous tout.
C'est en 85-86, donc une association alsacienne qui se nomme les Cigognes, une dénomination assez suggestive, qui fournit la mère porteuse et les médecins capables de réaliser les opérations initiales, c'est-à-dire le prélèvement des cellules de reproduction du père et de la mère, leur fécondation en laboratoire et leur implantation dans l'utérus de la mère porteuse. Donc, l'avantage, c'est qu'on conçoit un enfant qui est biologiquement conçu par les parents et qui est maintenu simplement dans le ventre d'une femme. L'association est tenue, puisque nous sommes dans les règles de l'Alsace, donc qui est une disposition juridique un peu spécifique, l'association est tenue de déposer ses statuts et d'être inscrite au registre du tribunal. Et là, le préfet refuse en fait le processus judiciaire parce que il estime que l'association encourage l'illégalité, puisque c'est une incitation à l'abandon d'enfants, puisque la mère qui a porté cet enfant va le laisser au profit d'autres personnes. Donc l'association à l'époque dit « ben non, c'est pas illégal, puisqu'en fait, c'est pas la mère biologique, et donc on peut pas parler d'abandon d'enfant, on ne peut abandonner que son enfant biologiquement ». Et donc, c'est le tribunal administratif, vous voyez, nous parlions de la juridiction, c'est le tribunal administratif qui rend une décision. Dans un premier temps, on dit que le préfet a raison, et puis, bien sûr, on saisit ensuite la juridiction au-dessus. Et le tribunal administratif, quand même, sur ce point, répond que, certes, c'est pas un abandon d'enfant, mais, et c'est là où je voulais en venir, on ne peut pas commercialiser un certain nombre de choses qui ne peuvent pas faire l'objet de transactions, et notamment les organes et le corps humain en général. Donc là, on fixe par une décision de justice le fait que le corps humain n'est pas dans le commerce. Ce qui fait que quand on donne son sang, par exemple, on donne son sang, on ne le vend pas. On ne le vend pas. On peut donner un rein, on peut donner un organe, etc. On ne le vend pas. Or, vous savez que cette législation est très protectrice en France, car si nous nous mettons au plan international, eh ben, je dis pas aller sur le bon coin, parce que je pense que c'est pas le cas.
Enfin, les gens vont en Belgique.
Vous allez sur Internet, vous avez en Inde quelqu'un qui va vous vendre son rein, quelqu'un d'autre qui va vous vendre, je ne sais pas si on peut vendre ses yeux, j'en sais rien, je suis pas dans le domaine médical, mais enfin bref, qui va vendre une partie de ses organes pour pouvoir continuer à vivre ou à survivre économiquement. Et ça, en France, ce n'est pas possible. Donc ce procès est intéressant parce qu'il fixe les limites, à travers cette histoire de mère porteuse, donc de droit de la famille pure, il fixe les limites de la dignité humaine revue par le droit.
Ouais. Ça va tenir. Il n'y a pas de coup de boutoir de la part de gens qui vont bien commercialiser justement toutes ces parties du corps.
On est sur une période économiquement compliquée. Et puis il y a le vieux principe pas vu, pas pris. Et puis les gens, on peut avoir des gens extrêmement nécessiteux qui disent « je n'ai que ça à vendre ». Finalement, pardon pour cette transition, mais la prostitution, c'est quoi? On vend son corps. On vend son corps. Et cet acte-là pose bien un problème philosophique, éthique, et un problème aussi juridique. Donc les mères porteuses, c'est ça. 85-86, ça a été quand même un grand événement dont on ne se souvient plus trop aujourd'hui, parce que vous faisiez allusion GPA, PMA, tout ça, ça a avancé considérablement. Mais ailleurs, ça se pratique encore. Notamment, l'affaire venait des États-Unis au départ.
Philippe, merci. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. On se retrouve bien évidemment dans un mois pour un nouvel opus. D'ici là, essayez de nous rester fidèles.